Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Un rapide coup d'œil sur la vie des quelques 266 papes qui ont succédé à Saint-Pierre depuis 2000 ans montre qu'on trouve parmi eux tous les types d'hommes possibles, du saint au criminel, de l'érudit à l'illettré, de l'ascète au débauché. Mais celui que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties détient sans conteste la palme de l'abomination. Il s'agit d'Octavien, fait pape au Xe siècle sous le nom de Jean XII. Qui était donc cet Octavien, devenu pape en 955 sous le nom de Jean XII ? Il était issu de la puissante famille des comtes de Tusculum. Comme plus tard Benoît IX, de sinistre mémoire, il est donc de la maison de Théophylacte. Ce clan exercera pendant près d'un siècle et demi une mainmise sur le Saint-Siège, confisquant les attributs spirituels de la papauté pour servir leurs intérêts. Belle lignée. Il est certain que le comte d'Andolo, en accord avec les plus éminents historiens, a raison sur ce point. La chute des Carolingiens a semé le chaos. Les villes, les palais, les bastions, les monastères étaient pris par ceux qui voulaient et savaient les prendre lorsqu'ils disposaient des moyens militaires suffisants pour parvenir à leur fin. Il est bien connu que lorsque le chat n'est plus là, les souris dansent. C'est ainsi qu'Octavien fut fait pape à 18 ans. Rome était dans la main de son père, Albéric II de Spolète, qui avait extorqué des notables de la ville le serment qu'il ferait son fils pape le temps venu. Le gamin, que rien ne disposait à une telle charge, ni même au sacerdoce, cultivait, outre les passions propres à son âge, une telle somme de disgrâce qu'on eût pu dire, comme Shakespeare le fait dire au sujet de MacDowald, qu'il avait été piqué par l'essaim de tous les vices de la nature. Menteur, fourbe, débauché, traître, sadique, rancunier, il vécut son pontificat comme l'occasion formidable d'exercer ses dons dans les meilleures conditions. La ruse, qui accompagne souvent comme une sœur attentive les vices précités, a pu donner à Jean XII une manière d'habileté dans la gestion des affaires romaines. Il sut par exemple reconnaître en Othon le Grand un nouveau Charlemagne, ce qu'il était en effet. 162 ans après le père de la dynastie carolingienne, Jean XII, sacré empereur, Othon Ier, accourut à Rome avec son armée pour sauver Rome, menacée par le roi d'Italie. Était-ce dans le but d'affermir la papauté ? Non ! Seul comptait son insatiable appétit de puissance et sitôt Othon parti, il n'attendit même pas que ce dernier ait quitté Rome pour comploter avec ses ennemis. L'empereur agit en conséquence, il œuvrera à créer un lien indissoluble entre le spirituel et le temporel. Unis avec les papes par des serments de fidélité réciproque, ses successeurs, appuyés sur un clergé séculier tout acquis à leur cause, restaureront pour un temps l'équilibre acquis du temps de Charlemagne. La couronne portée par l'empereur symbolisera cet état. Octogonale, elle représente l'union des deux cités saintes, Rome et Jérusalem. C'est la couronne que portera Saint-Louis. Pour tous ses contemporains, il est certain que Jean XII n'apparaît que comme un comédien qui joue le rôle du pape. Il aime la chasse et passe un temps considérable chaque jour à choisir l'un de ses 2000 chevaux pour partir en forêt. Passer de la selle au trône pontifical est sans doute fastidieux. Pour plus de commodité, Octavien sera toujours en habit de guerrier, à l'office comme à la chasse. Il faut dès lors comprendre la réaction d'Othon. Il fit chasser Jean XII comme indigne de sa charge. Déjà, on évoquait la certitude que Satan lui-même, en la personne de cet Octavien, avait siégé sur le trône de Saint-Pierre. En agissant de la sorte, Othon ressuscita la force et la noblesse d'esprit de Charlemagne. On retrouvera de semblables traits de caractère plus tard chez Henri III, lors du pontificat de l'effrayant Benoît IX. Ces rois-là n'étaient pas simplement nobles par le rang, ils l'étaient par le cœur. Leur grandeur était d'ailleurs le reflet profane de la grandeur des monastères qui couvraient alors la France et qui rivalisaient en sainteté quand les papes rivalisaient en abomination. Il y avait Cluny en France, il y avait le mont Cassin en Italie, dont le rayonnement ne s'était jamais démenti. Le meilleur de l'esprit humain se trouvait là, à mi-chemin entre Rome et Naples, dans l'architecture et dans les hommes, dans la pierre et dans les âmes. Ce haut lieu de la vie spirituelle médiévale, métropole de tout l'ordre monastique, résumait l'esprit même du Moyen-Âge. Perché sur un mont, aujourd'hui pelé, mais à l'époque entouré de forêts impénétrables, il était comme la présence du divin au milieu de l'enfer. Par sa situation, ses richesses, ses constructions, il était le boulevard de Rome, selon le mot de Pierre Jardet. Les esprits les plus brillants s'y succédaient depuis Saint-Benoît. Dans les forêts alentour régnait un tout autre ordre. On y pratiquait des rituels païens et toutes sortes de magies. On sacrifiait à Apollon, on sacrifiait au diable. Benoît IX devait en savoir quelque chose, ces forêts étaient son temple secret. Il s'y rendait quotidiennement. Mais le monastère avait mystérieusement survécu aux pillages, aux incendies. Empereurs, rois et simples religieux pouvaient y trouver refuge. Chassé une première fois, Jean XII revint pourtant, porté par l'influence des nombreuses maîtresses qu'il comptait dans la noblesse romaine. Il avait su tisser les liens inextricables qui sont ceux de l'argent et de la débauche. La Providence mit un terme à son ignoble pontificat. On le retrouva mort dans les bras de sa maîtresse, frappé à la tempe par un mari jaloux qui, pour lui faire payer le port de honteuse corne, lui planta, comme le dit magnifiquement François Bruisse, une rave au derrière. Une rave, ça n'est pas une betterave ou un navet, c'est un chandelier à une branche. Donc il est mort dans des conditions assez douloureuses, le malheureux pape Jean XII. Un moine du Mont Cassin, Pierre Damien, aujourd'hui saint et docteur de l'Église, scandalisé par les pratiques infâmes qui suppuraient tel un abcès dans toute l'Italie, commit un texte destiné à faire changer les choses, comme on dit. Ce livre, appelé « Livre de Gomorre », est un pamphlet contre la sodomie. Il est resté et entré dans l'histoire de la littérature sacrée comme une perle du genre. Il importe avant tout de savoir que le Moyen-Âge, imitant en cela une certaine terminologie biblique, enfermait sous certains termes un ensemble de comportements. Et de même que la prostitution définissait une conduite hostile à Dieu bien plus qu'une pratique sociale, la notion de sodomie revêtait un sens qui va au-delà de l'acte sexuel. Elle englobait les dissidences politiques et religieuses, au point que dans les réquisitoires de la fin du Moyen-Âge, les accusations de sodomie allaient souvent de pair avec celles d'hérésie, voire de lèse-majesté. Ce qui choqua Pierre Damien, ce fut donc une attitude générale du haut clergé et le fait que les pratiques sexuelles de son pape échappaient au châtiment habituellement décidé en pareil cas. Il n'aura d'ailleurs de cesse de réclamer l'égalité des punitions entre clercs et laïcs. S'appuyant sur saint Basile de Césarée, il rappelait que les clercs et les moines accusés de commerce avec de jeunes garçons devaient être soumis au fouet, en public, leur crâne rasé, après quoi ils devaient être mis au fer et au cachot pour 6 mois et nourris au fourrage à bestiaux. Le coupable, une fois libéré, était alors astreint à des travaux d'intérêt généraux, constamment surveillé par 2 frères moines, afin qu'il ne puisse jamais avoir de contact avec de jeunes gens. Pierre Damien avait en outre observé que les clercs qui se rendaient coupables de tels actes avaient tendance à se confesser, entre eux, afin d'éviter toute condamnation sévère. Bien joué! Mais c'en était trop pour Pierre Damien. Face à cette aliénation du cœur même de la vie sacramentelle, il se lança donc dans la rédaction de ce fameux livre de Gomorre.
À coup sûr, le vice de sodomie apporte la mort au corps et détruit l'âme. Il pollue la chair, éteint la lumière de la pensée, expulse le Saint-Esprit du temple du cœur humain et ouvre la porte au diable, le stimulateur de la luxure. Il mène à l'erreur, supprime totalement la vérité de l'esprit trompé. Il ouvre l'enfer et ferme les portes du paradis. C'est ce vice qui outrage la tempérance, assassine la modestie, étrangle la chasteté et massacre la virginité. Il salit toute chose, souille toute chose, pollue toute chose. Ce vice retranche un homme du cœur réuni de l'Église. Il sépare l'âme de Dieu pour l'associer au démon. Cette reine de Sodome, totalement malade, rend celui qui obéit aux lois de sa tyrannie infâme aux hommes et aux dieux à Dieu. Elle dépouille ses chevaliers de l'armure de la vertu, les exposant à être transpercés par tous les vices. Elle humilie son esclave dans l'église et le condamne au jugement. Elle le souille en secret et le déshonore en public. Elle ronge sa conscience comme un ver et consume sa chair comme le feu. Cet homme infortuné est privé de tout sens moral. Sa mémoire défaille et la vision de sa pensée est obscurcie. Ne se souciant que peu de Dieu, il oublie également sa propre identité. Ce mal érode les fondements de la foi, sape l'ardeur de l'espoir, dissout le lien d'amour. Il outrepasse la justice, démolit la force morale, fait disparaître la tempérance et émousse les arêtes de la prudence. Dois-je en dire plus ?
Oh non, par pitié, non, c'est bon. Soyons honnêtes, si l'on était convaincu de la grande chasteté de Pierre Damien, on pourrait s'interroger sur l'origine de ses sources au vu d'une telle énumération. Comme toujours au Moyen-Âge, la faconde dogmatique côtoie le merveilleux sans complexe. On dit certes le jour sur les articles du credo avec les théologiens les plus éclairés, quand la nuit on consulte les astres, quand ce ne sont pas les entrailles des oiseaux ou tout simplement les cartes. Quelque temps après la mort de Jean XII, un saint moine du Mont Cassin vit apparaître un animal mi-ours, mi-âne. À la question de savoir qui il est, le monstre répond qu'il n'est ni plus ni moins que le pape. L'ermite à peine a réprimé une expression de dégoût. Celui qui se présente devant lui a toutes les apparences des démons décrits dans les visions des pères du désert. Leurs faces hideuses et grotesques ornent les chapiteaux de colonnes de toutes les églises de la chrétienté. Il marque un temps d'hésitation. « Et pourquoi es-tu sous cette apparence ?»« Je me promène, ça et là, parce qu'étant pape, j'ai vécu sans raison, sans loi et sans Dieu, souillant le siège de Saint-Pierre de toutes sortes d'ordures. » Le moine épouvanté rapporte l'hallucination au prieur du monastère qui hausse les épaules. N'est-ce pas précisément la vocation du clergé régulier de colmater les brèches qui ne cessent d'apparaître depuis la fondation de l'église dans la maison de Saint-Pierre ? Autrement dit, Dieu merci, le monachisme qui va se développer tout au long du Moyen-Âge aura pour vocation et pour ambition de venir compenser un peu les turpitudes de ces papes dévoyés. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Le texte que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.